commençons par dire merci à l'aide, à Romish. Nous sommes heureux de nous trouver dans ce formidable bateau que vous avez construit. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, en 1990, Bertha Wilson, la première femme nommée juge à la Cour suprême du Canada, dans le cadre d'une présentation à des étudiantes et des étudiants en droit, posait la question suivante. Will women judges make a difference? Dans cette présentation, nous empruntons sa question comme point de départ en nous interrogeant quelle différence les femmes juges ont-elles fait? Pas de traduction.
Est-ce que la traduction est-ce que j'attends?
Ça commence maintenant?
Désolée. Il y a quelqu'un qui vient de quitter la salle. Est-ce que quelqu'un fait la traduction?
Ou pas?
S'il vous plaît?
OK.
Is it back on? OK, thank you.
Je peux commencer ou simplement continuer avec? OK, so, will women judges make a difference? OK, so, and thank you. OK, so, nous abordons cette question, will women judges make a difference, dans le contexte judiciaire canadien, en portant notre attention à l'espace de l'opinion dissidente, autrement dit, à la différence judiciaire. Est-il possible d'éclairer le point de départ de cette conférence, le juge est une femme, du point de vue de la dissidence judiciaire?
Rebecca?
Oui?
Je crois qu'il faut que tu mettes ton micro un peu plus loin parce qu'on t'entend respirer.
OK. D'ici ou de là? C'est formidable d'avoir quelqu'un de me corriger de tout en temps. C'est la chose d'une collaboration qui fonctionne. So, notre programme de recherche, Marie-Claire et moi, vise l'étude quantitative et qualitative des opinions dissidentes rendues par la Cour suprême du Canada. Vous comprendrez alors mieux l'intérêt que nous portons aux opinions divisées. En effet, la pratique de l'opinion dissidente fait partie intrinsèque de la tradition juridique canadienne. L'opinion dissidente trouble la prévisibilité du droit en offrant de nouvelles perspectives et en remettant en question parfois le résultat, parfois le raisonnement de l'opinion majoritaire qui constitue le droit. En même temps, elle est porteuse de mélodies nouvelles, de diverses avenues de justice possibles à une même problématique. Dans cette présentation, nous allons vous exposer quelques pistes de réflexion en exposant certaines statistiques au sujet des décisions rendues par la Cour suprême du Canada entre 1982 et 2011. Nous allons porter une attention particulière à la présence des premières femmes juges de la plus haute institution judiciaire de notre pays. Dans le cadre de notre présentation, nous allons nous en tenir à quelques données quantitatives révélatrices. Nous vous avons fourni un document contenant nos données, vous permettant de mieux suivre notre présentation. Enfin, nous allons vous offrir une analyse plus substantive des opinions dissidentes d'une juge afin d'explorer plus à fond le sort réservé à ces jugements minoritaires et à leur influence sur le droit. So, pour votre information, sachez que la Cour suprême du Canada est la plus haute instance du pays. Elle est composée de 9 juges qui siègent en banc de 5, 7 ou 9. Elle décide en dernière instance dans tous les domaines de droit. Elle n'est donc pas une cour uniquement constitutionnelle, ni une cour de cassation. De plus, sachez que pour faire appel à la Cour suprême du Canada, il faut faire une requête pour permission d'en appeler. Il existe un appel en plein droit, mais uniquement dans certains cas de droit criminel. Enfin, la Cour suprême du Canada n'entend que 75 pourvois en moyenne par année, puisque la plupart des appels ne sont entendus qu'à la suite d'une autorisation des juges qui y siègent. Évidemment, ce fait contraste avec la réalité de la plupart des cours de haute instance européenne qui rend plusieurs dizaines de milliers de décisions par année. Les décisions de la Cour suprême du Canada sont donc plus rares, mais aussi beaucoup plus longues que celles issues des traditions juridiques européennes.
Alors, comme vous le savez, la Cour suprême du Canada rend des décisions unanimes. Elle rend également des décisions majoritaires. Et c'est les décisions majoritaires, évidemment, qui constituent le droit. Or, nous avons également des opinions qui sont dissidentes sur les motifs, concurrences. Alors, ces dissidences, ces opinions minoritaires arrivent au même résultat que la majorité, mais pour des motifs différents. Et la Cour suprême du Canada rend des décisions dissidentes sur le résultat, soit des décisions qui arrivent à un résultat différent de la majorité. Et on les appelle en anglais des dissents. Maintenant, on va vous présenter quelques chiffres simplement. Pour les moyennes de nombre de décisions rendues par année, ce sont des décisions rendues par la Cour par écrit pertinentes pour notre projet de recherche. Nous avons divisé la Cour selon des décennies, où ce sont des juges en chef, les juges Brian Dixon, le juge Antonio Lamer et la juge Beverly McLaughlin qui ont été les juges en chef. Et simplement au niveau des quantités, vous voyez que la Cour a diminué progressivement d'environ 84 décisions au début de notre étude en 1982 jusqu'à aujourd'hui environ 62 décisions. Puis quant à la question de l'unanimité, vous voyez que la Cour rend, si on veut simplement généraliser, c'est à peu près 60 % des décisions qui sont des décisions unanimes et 40 % qui sont divisées. Il y a l'exception de la Cour du juge Lamer, où on voit que le nombre de décisions unanimes était seulement de 44 %. Cette différence s'explique par le fait qu'il s'agissait de la première décennie de l'interprétation de la Charte des droits et libertés canadienne qui a été adoptée en 1982 et qui commençait à être interprétée, ce qui a conduit à plusieurs opinions divisées. Maintenant, si on regarde ce tableau qui est un peu plus complexe, ce n'est pas celui que vous avez dans votre document, mais c'est un tableau similaire, c'est-à-dire que c'est les mêmes informations, mais vous voyez que les décisions vont jusqu'en 2007. Alors, la première colonne, ce sont le nombre de décisions divisées. Donc, tout le tableau ne concerne que les opinions divisées, selon laquelle un juge a siégé. La deuxième colonne, c'est la quantité d'opinions rendues par écrit par ce juge ou cette juge. La troisième colonne, c'est la personne jugée avec la majorité. Et les trois dernières colonnes sont les taux de dissidence. Alors, la première colonne sont les dissidences sur les motifs, les concurrences, l'avant-dernière et le résultat. Et la dernière colonne combine les deux colonnes qui précèdent pour arriver à un pourcentage d'opinions dissidentes par un ou une juge. Nous avons placé les juges en ordre croissant de dissidence, c'est-à-dire du moins dissident au plus dissident. Alors, si on prenait la dernière ligne, simplement, la juge Deschamps, Marie Deschamps, elle a entendu 109 décisions. Elle a rendu dans ses opinions minoritaires, elle a écrit le tiers des décisions. C'est quand même très, très important. Mais on voit qu'elle était avec la majorité, à peu près à 60 % ce qui est exactement celle de la Cour, approximativement. Vous voyez la ligne jaune en haut, c'est la moyenne de la Cour. Elle a été dissidente sur les motifs beaucoup moins que la Cour, puisqu'elle est à 10 % et la Cour est presque à 20 % Par contre, elle était plus dissidente sur le résultat, puisque ses taux vont jusqu'à presque 24 % alors que la Cour est plutôt autour de 17 % Et enfin, son taux général de dissidence est à peu près celui de la Cour, presque identique. Maintenant, ce qui était très surprenant dans nos travaux, c'est qu'au tout début, lorsqu'on a commencé à travailler sur ces données quantitatives, c'est à ce moment-là que nous avons réalisé, ce fut une surprise, que les personnes qui étaient les plus dissidentes dans l'histoire de la Cour suprême du Canada depuis 1982 étaient nos trois pionnières. Donc, la juge Claire Leroux-Dubé, première femme à être nommée du Québec à la Cour suprême du Canada, avait un taux de dissidence qui est beaucoup plus élevé, puisque près de 20 % de plus que la moyenne de la Cour. La juge Bertha Wilson, qui était notre première femme juge nommée en 1982, avec un taux de dissidence aussi de 20 % de plus, Et enfin, la juge McLaughlin. Ça, ça a été notre grande, grande surprise. La juge McLaughlin était en 2007 la juge en chef. Elle a été nommée en 1989. Elle est devenue juge en chef vers l'année 2000. Et son taux de dissidence, elle était la juge en exercice la plus dissidente de la Cour. Et ça surprenait tout le monde parce qu'on n'avait pas du tout imaginé que c'était possible. Donc, à la fin de cette première étape, on réalisait que les trois personnes les plus dissidentes de la Cour suprême du Canada étaient nos trois premières femmes.
Rappelons que la juge Bertha Wilson a été nommée à la Cour suprême du Canada en 1982. La juge Claire Leroux de Bay en 1987 et l'actuelle juge en chef Beverly McLaughlin l'a été à son tour en 1989. Elle a été nommée juge en chef de la Cour suprême en 2000. Le juge Louise Arbour a été nommée à cette cour en 1999, mais elle a quitté cette fonction en 2004. La juge Mary Deschamps a accédé à la Cour suprême en 2002 et elle a pris sa retraite en 2012. Les juges Louise Charron et Rosalie Abella ont été nommés en 2004. La juge Louise Charron s'est retirée en 2011 et la juge Kara Katsanis a été nommée en 2011 pour remplacer cette dernière. Notre Cour suprême du Canada aujourd'hui compte 3 juges sur 9, dont la juge en chef. Après 2 décennies de présence de femmes, des femmes comme juges à la Cour suprême du Canada, nous croyons pertinent de reprendre la question posée par la juge Bertha Wilson, mais en nous concentrant sur la différence entre les femmes juges elles-mêmes à la Cour suprême du Canada. 2 périodes se dessinent, les pionnières et la masse critique. D'abord, commençons par illustrer la présence des femmes à la Cour suprême du Canada depuis 1982. Voici un portrait de la présence des femmes. Nous avons une première période de temps où une, puis 2 femmes juges ont siégé à la Cour. On fait pendant une très courte période de temps 3 femmes ont siégé à la Cour suprême du Canada. Toutefois, après la retraite de la juge Wilson, 8 ans se sont écoulés avant qu'une troisième femme soit nommée. Ensuite, et ce depuis 1999, nous avons eu 3 ou 4 femmes qui ont siégé à la Cour suprême du Canada. Donc, 5 ans avec une femme juge, 10 ans avec 2 femmes juges, 10 ans avec 3 femmes juges, 8 ans avec 4 femmes juges. Now, Bertha Wilson a fait une contribution significative à la jurisprudence de la Cour en dissidence. Elle a écrit plus dissidence sur les motifs et sur le résultat que ses collègues masculins. Il existe une histoire d'exclusion qui a été documentée par des juges ayant siégé dans d'autres cours qui semble avoir été en jeu ici et avoir eu un impact sur ses opinions. En fait, la juge Wilson détient le record des opinions dissidentes sur les motifs depuis 1982, c'est dire l'importance qu'elle accordait à l'argumentation et au raisonnement. Nous reviendrons aux contributions des juges Claire Leroux de Bay et McLaughlin dans quelques minutes. Mais ces 3 premières femmes juges qui siégeaient à la Cour pendant cette période écrivaient et signaient 40% des opinions dissidentes de leur institution. Or, elles ne partageaient pas les mêmes points de vue. Une étude des 10 premières années de la Charte canadienne des droits et libertés de personnes était révélatrice à ce sujet. Dans leur analyse de la jurisprudence issue de la première décennie, Morton et ses co-auteurs avaient noté la fréquence des opinions dissidentes des femmes, des opinions distinctes des femmes. Ils ont classé les décisions des juges de la Cour suprême du Canada dans des cadrans déterminés par 2 axes. D'une part, l'axe horizontal porte sur la reconnaissance ou non des garanties juridiques des accusés en matière criminelle. D'autre part, l'axe vertical concerne la reconnaissance ou non des droits de groupes historiquement marginalisés, ça veut dire les demandes des féministes, des Premières Nations des minorités linguistiques et autres minorités, des environnementalistes, des homosexuels et des lesbiennes, ainsi que des activistes pour la paix et le désarmement. Les intérêts prioritaires de ces groupes minoritaires qui recherchent l'égalité ont pour objet la réforme et ils tentent défendre le projet politique dans des litiges devant des tribunaux plutôt que par l'adoption des lois issues d'instances législatives élues. Ainsi classées, les décisions des femmes qui portent le titre de juge se trouvaient alors dans trois catégories distinctes. Les résultats mettent en relief les différences entre les trois juges mentionnés plus haut. Malgré un fort taux de dissidence, chacune exprime son opinion d'une façon différente. La juge Bertha Wilson le faisait en défendant à la fois les droits des groupes historiquement marginalisés et les garanties juridiques des accusés en matière criminelle. La juge Claire Leroux de Bay, en appuyant les droits des groupes historiquement marginalisés, mais en s'opposant à ceux des criminels, alleged criminals, et la juge en chef Beverly McLaughlin, en manifestant une forte opposition aux droits des groupes historiquement marginalisés, jumelée à un appui modéré aux garanties juridiques des accusés en matière criminelle. Ces statistiques suggèrent que le sexe de la personne qui siège à un tribunal ne peut permettre de prédire le résultat auquel elle arrivera, et que les femmes qui exercent cette fonction ne partagent pas nécessairement une idéologie commune. Toutefois, les mêmes statistiques démontrent également que les femmes juges ont un point commun, soit le fait d'être dissidentes, par rapport à la majorité, peu importe la position de cette dernière.
Après la période des pionnières, soit à partir de 1999, 3 femmes sur 9 juges, puis 4 femmes sur 9 juges à la Cour suprême du Canada vont siéger. Commence alors ce que nous désignons comme étant la seconde période, soit celle de la masse critique. Or, les moyennes que nous vous avons montrées s'avèrent plus complexes. Elles révèlent des distinctions lorsqu'on prend en considération l'élément temporel. Nous avions remarqué que la juge McLaughlin, qui, lorsqu'on mettait tous ces nombres ensemble, avait un taux de dissidence qui était progressivement moins élevé d'année en année. C'est-à-dire que dans la première partie du moment où elle siège à la Cour, et on le voit jusqu'au moment où elle devient chef, juge en chef, où vous voyez la ligne rouge, à l'année 2000, ces taux de dissidence commencent à diminuer de façon notoire. Alors, il ne suffit pas de regarder la moyenne, il faut également la regarder dans le temps. Si nous reprenons maintenant le tableau que nous avions fait à l'origine, mais maintenant en y ajoutant les chiffres de 2007 à 2011, vous avez ici le tableau complet de 1982 à 2011. Et ce que ça révèle, la période de la masse critique, c'est que nous avons une grande diversité de façons d'intervenir à la Cour suprême du Canada. D'abord, la juge Charron est la juge qui a le moins haut taux de dissidence de toute la Cour suprême du Canada depuis 1982. Les juges Harbour et Abella, toutes deux nommées pour l'Ontario, détiennent des taux de dissidence sous la moyenne de la Cour. La juge Marie Deschamps, les taux de dissidence de la juge Deschamps avaient cessé de croître et à chaque année, on la voyait descendre dans le tableau avec deux de ses collègues, les deux juges du Québec. Donc, Marie Deschamps était nommée pour le Québec, le juge Lebel et le juge Fish avaient la même caractéristique. Ensuite, les taux de dissidence de la juge McLaughlin, on vous le disait, diminuaient d'année en année, de telle sorte qu'elle montait. Alors, vous voyez qu'elle n'est plus avec les deux pionnières qui, elles, ont gardé leur rang de plus grande dissidence de la Cour.
Les données suggèrent que la présence d'un bon nombre de femmes fait une différence. En somme, plus de femmes juges à la Cour suprême du Canada signifie une plus grande diversité de postures et d'opinions à propos du droit. La femme est une juge parmi d'autres. Elle ne représente plus les femmes. Maintenant, nous aimerions examiner très brièvement ce que certains juges font dans la dissidence par le biais de leurs opinions judiciaires. Pour nous, que les juges soient plus ou moins dissidentes a moins d'importance que l'espace qu'elles occupent lorsqu'elles sont en dissidence. Nous nous interrogeons sur ce que sont les dissidences devenues en offrant une analyse plus spécifique des opinions de la juge Claire Leroux Dubé, la plus grande dissidente de l'histoire de la Cour suprême du Canada. Après avoir lu toutes ces opinions minoritaires, une de nos observations a été la présence de différences à l'intérieur de la catégorie des dissidences. Il semble y avoir deux grandes façons d'aborder la dissension que nous appelons Périclès, d'un côté, qui représente une approche plus philosophique et s'intéressant aux principes. De l'autre côté, nous nommons la plombière, l'approche plus technique, pratique et pragmatique. Dans ces dissidences, l'approche philosophique, well, pourquoi pas un petit morceau des bijoux aux têtes de Périclès. Dans ces dissidences, l'approche philosophique fondée sur les principes domine. Ces dissidences décrivent la réalité, remettent en question la réalité et les différents présupposés concernant la justice, le genre, l'égalité. Certains jugements portent leur attention sur des principes généraux concernant les rôles institutionnels tels que les fonctions respectives de la législature et du judiciaire. D'autres opinions dissidentes portent une attention particulière aux détails pratiques, aux vis, aux écrus et aux tuyaux. Ces opinions se concentrent sur les détails routiniers qui maintiennent le système de justice, aux éléments pratiques qui bloquent le système ou qui provoquent des inégalités involontaires. Ici, le travail judiciaire consiste à s'assurer que le pouvoir décisionnel a été utilisé correctement en portant une attention particulière à son effet concret et pragmatique.
Enfin, une autre partie de ce récit consiste à s'interroger sur l'effet du temps sur ces dissidences. Après leur publication, que deviennent-elles? Alors, en prenant toujours le même corpus des décisions de la juge Claire Leroux Dubé, nous nous interrogions sur ce qu'elles étaient devenues. Alors, parfois, elles ont été intégrées dans la jurisprudence subséquente, parfois dans des réformes législatives, parfois, et elles sont souvent utilisées, en fait, pour la formation juridique. Certaines sont demeurées lettres mortes, et enfin, d'autres sont entrées dans le débat public. Alors, l'espace de la dissidence judiciaire peut nous offrir un terroir fertile pour réfléchir au rôle des femmes juges et des femmes comme juges. Premièrement, cette analyse suggère que la différence fait une différence. Cette différence implique évidemment le genre, mais également d'autres dimensions de l'identité et le potentiel de ces autres identités pour enrichir nos conversations à propos de la justice. La justice, au moins dans les pays dont la tradition permet la publication des opinions judiciaires dissidentes, peut se trouver non seulement dans les résultats d'une décision, mais également dans les motivations. L'articulation de différents points de vue peut produire des conversations nouvelles concernant différentes formes de justice. À notre avis, ces statistiques importent en ce qu'elles révèlent de l'information au sujet du genre, mais également parce qu'elles suggèrent au sujet d'éléments importants concernant la justice. La conversation à propos des femmes juges est cruciale. De même, la conversation à propos de l'identité raciale et autochtone demeure fondamentale. Au Canada, nous n'avons jamais eu de juges racialisés ni d'autochtones sur la plus haute institution judiciaire de notre pays. La discussion au sujet du genre permet de rendre cette absence visible. En guise de conclusion, les questions qui suivent visent à ouvrir le débat et à nous aider à poursuivre cette conversation. D'abord, comment expliquer la plus grande prévalence de la pratique de la dissidence chez les pionnières de la Cour suprême du Canada? Ensuite, les statistiques permettent-elles d'identifier certaines tendances liant la question identitaire à la pratique des opinions dissidentes? l'augmentation du nombre de femmes et la représentation identitaire sur le banc entraîneront-elles de nouvelles tendances dans le développement du droit? Et enfin, comment peut-on expliquer la richesse provoquée par la diversité des opinions judiciaires? Merci beaucoup pour votre attention.